reprise ce vendredi à la Synco des travaux sur l'arrangement particulier entre les parties signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les discussions se focalisent notamment sur la clé de répartition des postes ministériels et les modes de désignation du Premier ministre. Nord Kivu, deux personnes présumées éléments du M23 ont été présentées mercredi dernier par les commandants AI de la 34e région militaire au gouverneur de province. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Joachim Diana, il est éditeur du journal La Colombe et journal Paraissant à Kinshasa. Bonsoir, monsieur Joachim Diana.
Bonsoir, Kimate.
J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision. Bonsoir, monsieur J.R. Mokolo.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir, Diana Guigoupa. Et bonsoir, et surtout, meilleur vœu en tout cas pour 2017 à tous les auditeurs de Radio Capi, la radio de la paix.
Merci. Baba Isaac Kalonji, journaliste et analyste indépendant évoluant à Mbujima et au Kasaï Oriental. Bonsoir, monsieur Baba Isaac Kalonji.
Je vous salue, mon cher confrère.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder les débats de ce soir, Alain Hirung revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse.
Bonsoir. L'échange entre les évêques de la SENCO et le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, intervenu jeudi à Kinshasa, suscite les commentaires des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. D'après l'Avenir, il était question pour le président congolais de donner un coup de pouce à la mission des bons offices des évêques de la SENCO pour permettre une bonne application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Denis Sassou Nguesso a tout simplement demandé aux évêques d'aller jusqu'au bout de leur mission, à savoir obtenir un compromis pour une transition apaisée devant aboutir à l'organisation des élections, rapporte pour sa part le potentiel. Une analyse partagée par le Phare, mais le tabloïd croit savoir que l'ultimatum des évêques de se retirer de la scène alors qu'ils sont tout près du but l'a vivement préoccupé et l'a poussé à intervenir. En rapport avec les discussions sur l'arrangement particulier en cours au centre interdiocésain, la prospérité estime que rien n'y va et que la situation tourne plutôt au vinaigre. Pour s'en convaincre, le journal fait écho d'une déclaration de la majorité présidentielle distribuée jeudi, comme du petit pain dans les médias. Dans ce document, rapporte le journal, la MP dénonce ce qu'elle appelle coup d'État en raison de sa minorisation au sein du Conseil national de suivi de l'accord par le Rassemblement. La famille du chef de l'État accuse en outre cette plateforme politique du manque d'esprit d'ouverture et de déficit de bonne foi. Cette dernière, précise le quotidien, se traduit notamment par une attitude de provocation visant à créer une nouvelle crise factice en bloquant la progression normale des discussions directes. Analysant cette déclaration, Forum d'État retient notamment que la famille politique du chef de l'État s'en tient en rapport avec le mot de désignation du Premier ministre de la Transition à la présentation d'un panel de candidats Premier ministre pour permettre au président de la République de choisir un parmi la demi-douzaine qui lui sera proposée. Dans un tout autre chapitre, surprise enfin, c'est actualité.cd qui notamment l'évoque. Le ministre congolais de la Défense nationale a saisi dimanche le mécanisme de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour vérifier les informations faisant état de l'incursion de près de 200 ex-rebelles du mouvement du 23 mars communément appelé M23. J'ai l'honneur de vous demander, écrit le ministre, de bien vouloir procéder de toute urgence à la vérification des informations me parvenues faisant état de l'infiltration de plus ou moins 180 rebelles ex-M23 qui auraient quitté l'Ouganda dans la nuit du 14 au 15 janvier en direction du territoire de Rutshuru. Reprend la correspondance signée par Crispin Atamatabe, ministre de la Défense nationale, qui attend les conclusions de ses enquêtes dans un bref délai. L'alerte sur l'incursion des M23 avait été donné plus tôt dans la journée par Julien Paloukou, le gouverneur de la province du Nord Kivu.
Merci Alain Hirung, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe et journal Paraissant à Kinshasa. Cette semaine, la RDC a commémoré l'assassinat de ces deux héros, à savoir Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux personnalités?
Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que la mémoire de ces deux héros nationaux est ravivée. Et je crois qu'au courant de cette semaine, nous nous sommes dit que, en ce qui concerne Musée, par exemple, l'organisation de la fête est jusque-là l'affaire de la Fondation Musée. Et la Fondation est généralement totalement lié à la famille. Il faudrait que cela devienne une affaire de tout un régime et avant de devenir une affaire de toute la nation. C'est-à-dire qu'il faudra que tout en utilisant la fondation comme organisateur, que les fonds, les moyens, tout ça pour célébrer ces deux anniversaires viennent de l'État congolais. Que ce ne soit pas une affaire d'une majorité aujourd'hui au pouvoir, que demain, Lumumba, par exemple, retombe dans l'oubli, comme il est resté dans l'oubli pendant les 32 ans du règne de Mobutu.
Qui a fait de lui un héros.
Bon, il en a fait un héros dont on ne parlait pas. Si vous en parlez, vous êtes arrêté. Donc nous voulons sortir de cette hypocrisie-là. Il faudrait que les deux héros soient une affaire nationale.
Gérard Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, 56 ans après la mort de Lumumba et 16 ans après celle de Laurent Désiré Kabila, la RDC se trouve à la croisée des chemins. Qu'est-ce que l'actuelle classe politique peut tirer de l'engagement politique, n'est-ce pas, de ces deux personnalités?
Oui, je voudrais d'abord m'étonner que Lumumba soit resté pendant 32 ans dans l'anonymat. C'est le maréchal qui l'a élevé au rang des héros. Il y a même tout un boulevard construit sous le maréchal portant son nom qui est utilisé par des Congolais jusqu'à maintenant. Donc je crois qu'il n'y avait pas vraiment anonymat total. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons retenir? Je crois que c'est la,
de l'engagement politique de
voilà,
ces
c'est la bonne
héros.
Question que nous devrions en tout cas nous poser chaque fois que nous commémorons l'anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila ou de Lumumba. En particulier de Lumumba, moi je suis seulement malheureux de voir que aucun des engagements politiques de Lumumba n'a été pérennisé aujourd'hui. Lumumba s'est battu pour la liberté. Quand vous surréalisez même son discours face au roi des Belges, il dénonçait quoi? Les brimades, les injustices, les tortures, la maltraitance. Mais aujourd'hui, le Congolais est maltraité dans son propre pays par ses propres dirigeants. Des gens qui sont enlevés, qui sont gardés au secret pendant des mois et des mois. Lumumba s'est battu pour qu'on agisse de la sorte.
Et par rapport à l'engagement politique voilà. De Laurent Désiré Kabila?
Oui, l'engagement de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était la FDL, Alliance démocratique pour la libération du Congo, c'était aussi pour la liberté. Mais 16 ans après, je ne vois pas en quoi est-ce que les Congolais sont libres, je ne vois pas en quoi est-ce que les Congolais vivent mieux qu'il y a 16 ans. Donc je crois que c'est vraiment un gâchis. Les Congolais ont été pratiquement roulés dans la farine. Nous avons accueilli la FDL comme étant un mouvement de libération en liesse. Mais autant d'années après, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas en tout cas fait mieux que le maréchal Mobutu pendant ces 32 ans.
Merci Baba Isaac Kalonji, journaliste et analyste indépendant évoluant en Bougimba et Kasaï oriental. Et notre pays se trouve à la croisée des chemins. Que peuvent faire les forces vives de la nation aujourd'hui pour que les décisions issues de ces différentes négociations ne compromettent pas l'avenir du pays, l'avenir de ces populations, en se référant, n'est-ce pas, à ces deux personnalités que sont Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba?
Merci, confrère, pour la question, mais je vous renvoie. Je vous renvoie à la mémoire collective qui attend ce qui a été fait pour Papa Wemba par rapport aux autres deux héros nationaux. Je suis choqué et même étonné de voir qu'un musicien puisse avoir un rang social de la trempe de Lumumba et de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont, non seulement ont combattu la brimade et puis la dictature colonialiste, mais ils ont donné de leur vie au nom de la liberté, liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de manifestation. Ils ont donné de leur vie. Et à notre mémoire, ils sont ce personnage qui est inoubliable. Mais quand vous regardez ce qu'on a fait pour Papa Wemba il y a 2, 3, 4 mois, par rapport à ce qu'on fait pour Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila, il y a la marche. Ici en province, nous sommes choqués, mais
Baba
nous
Isaac.
Ne pouvons rien, parce que ça dépend de ce que le régime voit dans le patriotisme et dans le militantisme et puis dans le nationalisme de ces deux héros qui sont Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba.
Baba Isaac Kalonji, je rappelle ici que Papa Wemba n'a pas été élevé au rang des héros, il a été plutôt décoré de la médaille des héros nationaux. Ça, c'est une précision qu'il faut apporter.
C'est une précision qui n'annule rien à ce que je pense, parce que vous ne comprenez pas. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est insurgé contre le pouvoir légalement établi en faveur de Lumumba pour aller à la montagne Rwenzori et aller en Brousse. Il n'est pas allé là-bas pour lui-même. Il était militant de Lumumba et il est sorti du pays pour aller à l'étranger en exil pour Lumumba. Et pour cela, il est militant convaincu de liberté d'expression, de mouvement et même de création de partis politiques. Il est combattant Et à ce titre, on lui a reconnu le titre de héros national. Mais leur fête anniversaire, le 16 et le 17, ne traduisent rien par rapport à leur rang social reconnu par le régime.
Merci. Notre premier thème de ce soir, reprise ce vendredi à la Cinco des travaux sur l'arrangement particulier entre les parties signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les discussions vont se focaliser notamment sur la clé de répartition des postes ministériels et les modes de désignation du Premier ministre. S'agissant du Premier ministre, la majorité veut que le rassemblement présente au chef de l'État une liste de candidats, tandis que, se basant sur l'accord du 31 décembre 2016, le rassemblement estime qu'il lui appartient de désigner le Premier ministre. Le mercredi dernier, la CENCO a informé les partis en négociation que la médiation n'était pas disposée à continuer sa mission de bons offices au-delà de ce week-end. Et donc, il faut se surpasser pour trouver une solution à l'arrangement politique devant déboucher sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Askin Zigbia Tayoro pour le détail.
Selon le participant, les travaux n'ont pas avancé ce mercredi au centre interdiocésain. Le rassemblement dit ne pas comprendre l'attitude des délégués de la majorité présidentielle qui défendent que la répartition de postes se fasse sur base d'une configuration classique de composantes, c'est-à-dire attribution de postes séparés pour l'opposition, la majorité présidentielle et la société civile. Valentin Moubaki.
Nous sommes ici deux parties prenantes, ceux qui ont signé la Cité de l'Union africaine et ceux qui n'ont pas signé. Mais revenir aujourd'hui pour dire non, cette configuration n'est plus bonne, revenons à une configuration qu'ils appellent classique, c'est-à-dire majorité, opposition et société civile. Vous remettez en cause l'accord et on ne peut pas l'accepter.
Mokunda Bonda de l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine estime que le rassemblement, moins encore la majorité présidentielle, ne peut prétendre se tailler la part des lions au sein du gouvernement de transition.
De toute façon, le rassemblement n'a pas gagné les élections, n'a pas le droit de tout avoir. Le gouvernement, lui, il n'a pas organisé les élections, il n'a pas le droit de tout avoir. Nous devons tous essayer de nous retrouver ensemble pour gérer et organiser les élections demain.
Selon la CENCO, la commission gouvernance doit continuer à parfaire son rapport. Entre-temps, la plénière continue d'examiner ce soir le rapport de la commission de la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016.
Merci à Askin Zigbia Tayoro, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe. Et comment vous analysez l'évolution de ces discussions?
Mais vous l'avez suivi à travers toutes les déclarations qui ont été faites, et aucune n'est juste, aucune n'est conforme à la Constitution et aux lois de la République.
Vous pouvez analyser quelle déclaration
c'est le combat qui vient de faire et ce que même Mokunda Bonza vient de dire. Lorsque Mobak estime qu'on est là-bas au dialogue entre ceux qui ont signé l'accord de la cité de l'OIA et ceux qui vont signer leur accord, et ce sera la division. Mais c'est une tricherie. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, la tricherie vient des évêques. Parce que les évêques, en organisant ce forum du centre interdiocésain, c'était en application de l'article 24 de l'accord de la cité de l'OIA. Si les gens de la cité de l'OIA avaient bloqué, mais ils auraient résisté, ils ne seraient même pas allés au centre interdiocésain. Mais voilà que les autres, ils croient que toujours ils feront la politique par la ruse. Et la ruse, là, s'octroyait beaucoup de postes au gouvernement.
Mais c'est bien là, lorsque Moubaké dit que les négociations ont concerné les signataires de l'accord du 18 octobre et les non-signataires, est-ce qu'il n'a pas raison?
Mais c'est faux et archi-faux. Comment on peut organiser le dialogue entre ceux qui ont signé l'accord et ceux qui n'y étaient pas? C'est ça le problème qui se posait au pays. Le problème congolais était le problème, c'est qu'il y a les uns qui ont signé, les autres n'ont pas signé. Ou bien le problème, c'était de trouver la solution à la tenue des élections. Là, il est en train de tricher tout simplement.
Et donc, vous pensez qu'il faut faire la répartition selon la configuration classique?
Mais il faut qu'il y ait
d'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité, sinon, et de l'autre la société civile.
Sinon, c'est quoi? Sinon, on irait discuter entre qui et qui. Il n'y a pas eu un problème entre l'accord de la cité de l'UIA et l'accord du centre d'intervention. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'organisation des élections. Qui vont aux élections? L'opposition, la majorité, et il y a la société civile. Ce sont ces gens-là qui doivent être de composantes à ce dialogue. Ça a été toujours le cas. Mais aujourd'hui, parce que Moubaké veut avoir le pouvoir qu'il n'a pas pu avoir par les élections, il veut l'avoir par la voie contournée, et on croit qu'on peut utiliser la ruse. En ce qui concerne Mokunda Bonza, Il dit que la majorité n'a pas organisé les élections. Dans quelle constitution il est dit que la majorité organise les élections? L'article 211 de la constitution rend la CENI totalement responsable. Dans tous ces trois alinéas, la CENI responsable d'organisation des élections. Le gouvernement finance la CENI comme il finance la justice, comme il finance tous les autres domaines. Ça s'y est géré. Il ne doit pas raconter des histoires lorsque l'opposition a refusé tous les calendriers possibles qui ont été publiés et il dit que c'est la majorité qui n'a pas organisé. Tout ça, c'était des astuces pour arriver à l'état où nous sommes aujourd'hui.
Merci, Gérard Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision. Les lignes ne bougent toujours pas. Dis-moi, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, les points de divergence, c'est la clé des répartitions des postes ministériels ainsi que le mode de désignation du Premier ministre. Comment vous analysez ces divergences de vues?
Oui, ça nous montre que ceux qui sont en train de négocier ne sont pas en tout cas de bonne foi. Les gens sont en train de se soupçonner les uns aux autres et disent bon, on voudrait nous rouler dans la farine, on voudrait nous imposer un schéma. Et quand on nous parle ici de la ruse, je crois que ceux qui ont tout fait pour que les élections ne soient pas organisées, pour que la CENI n'ait pas le moyen d'organiser les élections, je crois qu'ils ont aussi rusé. Je crois que c'est tout le monde qui est en train pratiquement d'utiliser la ruse. Moi, je m'étonne que les gens sont en train de déchirer pour le partage des postes. Comme l'a dit Diana, je suis un peu d'accord avec lui, l'importance de cette rencontre n'était pas le partage des postes. C'était de trouver un chronogramme pour l'organisation des élections au plus tard décembre 2017. Mais cette question-là, jusqu'à maintenant, n'est même pas prise en charge. Même des questions qui ne demandent même pas que les gens puissent se réunir, qui ne demandent même pas qu'on débourse un budget pour leur matérialisation, comme par exemple les mesures de décrispation où on devait libérer certains prisonniers, ou réouvrir des médias fermés comme Canal Congo Télévision, la Radio Liberté, Kinshasa, qui est fermée sans notification, qui nous a pratiquement réduit au chômage, n'ont même pas été appliquées. Et ceux qui sont là-bas ne se battent même pas pour que de telles mesures ne soient appliquées. On en est aujourd'hui à se battre sur la modalité de désignation du Premier ministre. La majorité dit non, il faut un panel de personnalités qui prétendent à ces postes-là et qui doivent être désignés par les rassemblements. Les rassemblements disent niet. L'accord dit que nous devons désigner un Premier ministre, le président, les nombres. Et la majorité dit non, il faut tenir compte du poids politique au niveau de l'Assemblée nationale. Pendant qu'on est en train de tergiverser au centre interdiocésain, les sociales du Congolais sont en train pratiquement de s'enfoncer. Vous savez aujourd'hui le franc congolais à combien? Et c'est là qui fait la monnaie nationale, a des implications sur les prix des biens et de consommation, et a des implications sur les sociales. Les routes sont en train de se détruire, personne ne s'en occupe. Les gens sont en train de mourir d'épidémies, personne ne s'en occupe, parce que les gens sont en train de se battre pour se positionner. Et vous allez maintenant voir, par exemple, ceux qui sont au gouvernement, Badibanga lui-même avec son équipe, ils se battent pour trouver une place dans le prochain gouvernement. Donc personne ne s'occupe en tout cas de la souffrance de la population. On est en train de se battre pour se positionner. Je crois que c'est très très malheureux en tout cas pour notre pays.
Merci Baba Isaac Kalonji, journaliste, analyste indépendant évoluant en Bujima et au Kasaï oriental. Certains analystes pensent que vu les temps, les deux camps ont intérêt à se faire mutuellement des concessions. On dit par exemple le rassemblement pourrait céder en ce qui concerne les modes de désignation du Premier ministre en présentant au chef de l'État une liste de plusieurs premiers ministres, et la majorité de son côté céderait en ce qui concerne les ministères régaliens, les ministères de souveraineté.
Et je suis peiné, mon cher confrère, de constater que personne ne prend conscience de la gravité de la situation qui prévaut en RD Congo présentement. Pouvez-vous comprendre que ce qu'on définit comme arrangement particulier, c'est en dehors de l'accord, du compromis politique qui a été trouvé pour lequel chacun de nous a apposé sa signature, chacun des membres. Maintenant, on parle d'arrangement particulier sans le définir clairement. C'est-à-dire, c'est un bouche-trou, c'est une façon de combler les vides laissés par le compromis politique trouvé à la date du 31 décembre. Maintenant, pour boucher ce trou, il faut que tout le monde harmonise. Celui qui a placé la barre très haut doit faire en sorte que la barre revienne et celui qui était trop bas monte, il se rencontre et il résolve le problème d'un pays appelé à être patrie, appelé à être nation. Personne ne semble prendre conscience de cette objectivité. c'est-à-dire arrangement particulier, se mettre d'accord sur des points précis pour donner l'occasion au pays d'organiser les élections et procéder à l'alternance en signant la remise des reprises en paix. Donc personne n'est conscient, personne ne veut la paix, personne alors et personne ne veut que le Congo émerge du lot. Donc c'est ça mon analyse et ma compréhension en province où je me trouve. Mais je suis peiné de constater que ce sont les mêmes patriotes qui ont dirigé avec le chef de l'État pendant 15 ans. Mais ce sont les autres qui se sont déclarés opposants pendant 30 ans, qui n'arrivent pas à harmoniser, même quand ils se retrouvent en face, pour organiser d'une manière normale un arrangement à l'amiable, arrangement appelé particulier. Est-ce normal que les ressortissants d'un pays qui voient le pays en naufrage, donc notre bateau est en train d'aller vers la dérive, ces gens-là ne prennent pas conscience là où ils sont pour que le bateau ne chavire. Ils ne prennent pas conscience pour qu'on trouve une solution collective, consensuellement, qui pouvait donner la paix au pays et permettre à ceux-ci d'aller au vote. C'est grave. Je suis peiné à Mboujima et moi.
Merci, merci Baba Isaac, Diana Gikoupa. Personne ne prend conscience. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'on puisse trouver un compromis? Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement se baser sur des détails? Les uns disent, voilà, nous nous basons sur la Constitution. D'autres disent, nous nous basons sur l'accord du 31 décembre. Et vous pensez qu'avec cela, on peut facilement trouver un compromis? Pourquoi les gens ne peuvent pas, n'est-ce pas, pour l'intérêt supérieur de la nation, accepter de se faire mutuellement des concessions?
Bon, mais écoutez, vous, ceux qui disent que ils vont se baser sur l'accord, et ce sont les mêmes qui disaient hier que les dialogues doivent se tenir conformément à la Constitution. Et d'ailleurs, quand vous allez même conformément à la Constitution n'a dit nulle part que lorsque une institution a fauté, entre autres, supposons même, comme dit Jean Omas, qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé, supposons même que ça soit vrai que le gouvernement n'a pas donné le financement. Et quelle est la sanction? La sanction se trouve dans la Constitution ou bien en dehors de la Constitution par le partage du pouvoir. Quand vous avez fauté contre la Bible, la sanction se trouve dans la Bible. Or, justement, il s'avère, je l'ai plus d'une fois dit, que la Constitution elle-même a une cour constitutionnelle. La même cour constitutionnelle qui a demandé à la CENI de reporter les élections. La même cour constitutionnelle qui a résolu les problèmes. Et ils disent non, nous respectons la Constitution, mais nous ne respectons pas la cour constitutionnelle. Et allez-y dire, nous sommes
dans les... Aujourd'hui, est-ce qu'il est impossible que les deux camps se fassent mutuellement des concessions?
Ça sera difficile dans la mesure où nous avons... Il y a des gens qui ne changent pas 90 ans, 80 ans, qui sont dans ce débat. Vous allez vous rendre compte, une petite histoire dans 10 secondes. Le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, ne s'est jamais battu pour les vraies élections. Il s'est toujours battu pour les élections dans la salle.
Évidemment, on ne personnalise pas les débats.
Si vous voulez, mais parle aussi de Kabila.
Est-ce que vous comprenez d'abord la position de la majorité qui exige à l'opposition de lui présenter une liste des premiers ministres? Vous avez suivi M. Lokondo, le député de la majorité présidentielle, qui a estimé que c'était un faux problème parce que lui, il estime que le chef de l'État a montré sa capacité à pouvoir cohabiter avec quatre vice-présidents. Et parmi ces quatre vice-présidents, il y avait ces belligérants. Il a su les gérer pendant 3 ans. Et pourquoi aujourd'hui la majorité aurait peur, n'est-ce pas, d'accepter les candidats qui lui seront proposés par le Rassemblement?
Et là, nous allons parler du président, c'est-à-dire nous allons parler de Kabila. C'est personnaliser les débats. Bon, je le mets de côté, j'arrive. C'est pour dire que Mokonda n'a pas raison, totalement. Nous sommes allés au dialogue. Ce dialogue a...
Parlons du Premier ministre. Les mots de désignation.
Mais c'est ça, les mots de
désignation.
C'est conformément au dialogue. Le dialogue a voulu qu'on soit dans le respect de la Constitution. Ce respect de la Constitution, même lorsque l'article 78 dit que le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité, mais il n'est pas dit que la majorité ne lui présente pas un candidat. Ne lui présente pas un Premier ministre, c'est lui qui l'a choisi. Il a un pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît la Constitution, qu'on n'a pas suspendu. Lorsque Mokonda, l'autre fait le 1 plus 4, mais il y a une Constitution qui réglemente tout ça. Mais ici, on nous demande de rester dans le respect de la Constitution. C'est le contraire de San City, où il y a eu une Constitution de la transition qui a réglementé tout ce que
Il est dit par certains observateurs que tout cela constitue des simples prétextes, que les problèmes à la majorité, c'est que la majorité éviterait, n'est-ce pas, un Premier ministre qui pourrait faire ombrage au chef de l'État.
Quel est le Premier ministre qui peut faire ombrage au chef de l'État? Et si même lui-même, le Premier ministre, conformément à la Constitution, vient pour faire ombrage au président de la... Je vais vous dire... Il aura, ce Premier ministre-là qui viendra de lui, il aura quelle majorité parlementaire?
parce que le président de la République, avec sa majorité, peut donner le mot d'ordre, on motion de censure, il tombe. Il va lui faire ombrage sur quoi? Là, c'est des gens qui nous.
Le député Thomas Lokondo
donne l'impression d'érudit, mais lorsqu'on réfléchit selon les intérêts, on va à côté. Il va faire ombrage au chef de l'État, alors c'est le chef de l'État qui a la majorité parlementaire qui peut même déjà refuser l'investiture, qui peut, par une motion de censure, faire tomber ce gouvernement.
Merci, Gérard Mokolo. Comment vous analysez cette discussion, n'est-ce pas, autour du mot de désignation du Premier ministre?
Bon, moi, cet accord-là dit que le rassemblement propose un premier ministre. On n'a pas parlé de panel, on n'a pas parlé, je ne sais pas, d'une myriade de candidats premiers ministres qui appartenaient au président de pouvoir désigner. Nous ne sommes pas là dans un concours d'embauche pour un poste d'embauche où on va proposer au directeur autant de noms. Puis il dit bon, voilà.
Vous avez la majorité qui estime que le chef de l'État a les droits de veto, n'est-ce pas, sur la désignation d'un premier ministre.
Bon, ce que les gens ne comprennent pas, que nous sommes dans une période assez spéciale. Quand on nous parle ici des respects de la Constitution, cette Constitution-là n'a jamais été respectée. Si elle était respectée, nous ne serions pas en train aujourd'hui de dialoguer pour préparer de bonnes élections. On serait déjà parti 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction, préparer déjà l'élection de son successeur. On serait aujourd'hui en train de vivre avec un nouveau président comme les États-Unis d'Amérique. Nous sommes le 20 janvier en train de vivre l'investiture de son nouveau président élu, Donald Trump. Donc nous sommes dans une situation assez particulière. Il ne faut pas tout le temps nous brandir. La Constitution dit ceci, la Constitution dit cela, mais certaines dispositions de la Constitution n'ont jamais été respectées. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Quand on accepte celui que le rassemblement va présenter, je ne crois pas que ce ne serait pas un étranger, ce ne serait pas un diable, ce serait un Congolais. Comme l'a dit Henri Thomas Lokondo, le président qui a cohabité avec des belligérants, il saura cohabiter avec ce nouveau Premier ministre. Au lieu de donner prétexte au rassemblement pour crier à la mauvaise foi de la part de la majorité, je crois que la majorité ferait bon de laisser le rassemblement présenter son candidat et voir s'il sera conflictuel ou s'il ne saura pas bien vivre avec le président, plutôt que de multiplier encore, de prolonger cette crise-là. J'ai comme l'impression que on n'a pas en tout cas envie d'aller tout droit aux élections. Le Congolais est en train de travailler pour que, en décembre 2017, nous puissions encore nous rendre compte que on ne saura pas organiser les élections, qu'on ait un autre dialogue, qu'on ait un autre glissement. Et j'ai même suivi certaines personnalités comme Jérôme Bonso, comme le professeur Bob Kabamba, dire sur Radio Kapi qu'il n'y aura pas d'élection en décembre 2017, qu'il nous faudra 3 ou 4 ans. J'ai même suivi le ministre Mende sur la voie de l'Amérique qui dit pratiquement la même chose. J'ai comme l'impression qu'au niveau de la majorité, si dialogue, c'est parce qu'il fallait créer quand même les conditions pour franchir sans coup férir cette ligne rouge du 19 décembre 2016. Merci. Comme on a déjà franchi cette ligne rouge, on revient maintenant pratiquement dans ses anciennes habitudes. On est en train de se cabrer, on est en train pratiquement de tout bloquer pour obtenir encore un nouveau glissement. Je crois que ça ne va pas avancer le Congo. Le Congo est en train de souffrir. Il faut faire en sorte que les solutions soient trouvées.
Merci, il faut faire en sorte que les solutions soient trouvées. Baba Isaac Kalangi, vous avez dit que les gens ne sont pas conscients. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens reprennent cette conscience? Parce qu'il faut que nous puissions avancer afin que les élections soient organisées au mois de décembre, comme cela est prévu, n'est-ce pas, dans cet accord du 31 décembre.
Chers confrères, il faut craindre que la CENCO ne puisse pas rouvrir la cage de la face B. C'est anormal pour les cadres congolais, les hauts cadres congolais qui siègent au sommet de la gloire et qui veulent que le Congo émerge du lot comme une nation, comme une patrie. Il faut qu'ils comprennent que chacun d'eux mette l'eau dans son vin de manière telle que, tout en préservant leur poste, mais qu'ils comprennent que la garantie de la population congolaise, ce grand peuple souverain primaire, c'est cette garantie-là qu'il nous faut aujourd'hui. Tous les intérêts qu'ils peuvent défendre individuellement sont bons, c'est pour leur compte. Mais nous n'avons aucun compte dans leur compte. Qu'ils fassent tout pour préserver la paix, faire en sorte qu'ils trouvent un compromis définitivement à cette crise, de manière telle que ceux qui ont passé la barre très haut du rassemblement puissent descendre légèrement et ceux de la majorité qui sont allés trop bas puissent monter, qu'ils se retrouvent au milieu du terrain de sorte à trouver un compromis définitivement mettant fin à la crise de sorte que les Congolais qui sont les mandants, qui donc conservent le pouvoir, qui conservent les mandats et aux présidents et aux députés, aux sénateurs, que ces Congolais-là se retrouvent en paix et qu'ils puissent continuer le combat pour l'émergence d'une nation. C'est ça mon analyse et c'est mon objectif.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, Nord Kivu, deux personnes présumées éléments du M23 ont été présentées mercredi dernier par les commandants AI de la 34e région militaire au gouverneur des provinces. Selon le général François Kamanzi, ces individus voulaient attaquer la province en faisant jonction avec le groupe des Sultani Makenga à Bunia. Il s'agit du major Zmurinda James et de l'adjudant-chef Désiré Karangwa, tombé dans les filets de la 34e région militaire il y a quelques jours avec leurs armes dissimulées dans des sacs de pommes de terre. Le gouverneur du Nord Kivu loue les efforts des forces de sécurité tout en invitant la population à redoubler de vigilance. Julien Paloukou.
Il y a quelques jours, je me suis adressé à la presse pour dénoncer l'incursion des éléments du M23. Beaucoup de gens ont douté de cela, ça suscitait beaucoup de polémiques. Mais si nous nous retrouvons ici, c'est pour louer la bravoure des éléments des forces armées. Ils ont réussi à démanteler les réseaux au niveau interne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les réseaux se situent à deux niveaux. Il y a le niveau externe et le niveau interne. Le niveau externe, c'est les troupes de Makenga, Boneza et tous les autres qui ont quitté le camp de Bihanga pour ceux qui y étaient. Et d'autres qui étaient les résidences luxueuses à Kampala, qui se dirigeaient à la frontière. Et les réseaux internes étaient constitués effectivement de ces gens qui devaient se joindre à ceux qui étaient à Bunagana et d'autres lançaient déjà une opération au niveau de la ville de Goma pour que ça s'embrase de partout. Il y a les deux messieurs que vous avez vus là-bas. On a attrapé des armes enfouies dans un sac de pommes de terre en provenance de Massissi pour se diriger vers Bunagana à leur emportant. C'est ici donc l'occasion de vous dire à l'opinion que nous devons continuer à être vigilants. Il y a beaucoup de gens qui minimisent cette situation parce qu'ils en tirent profit.
Pour sa part, la MONUSCO dit n'est pas confirmée ni infirmée jusque-là la présence des éléments du M23 sur le sol congolais. La mission onusienne affirme qu'elle ne dispose pas d'informations ni d'indices pouvant confirmer une telle présence, notamment dans les Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole le mercredi dernier à Kinshasa au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Toutefois, les casques bleus ainsi que les aéronefs de la MONUSCO sont déployés pour vérifier les faits et assurer la sécurité dans la région, indique Félix Prosper Basse. On écoute le porte-parole de la MONUSCO dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Jusque-là, nous n'avons pas recueilli des informations ou des indices pouvant quand même confirmer la présence des éléments du M23 en République démocratique du Congo, mais le travail se poursuit. Du côté de la MONUSCO, nous avons non seulement déployé des troupes sur le terrain qui mènent des patrouilles à partir de tous les postes d'entrée en République démocratique du Congo, mais aussi en étroite collaboration avec nos collègues et partenaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aussi sur le terrain. Nous avons aussi déployé des aéronefs qui ont survolé la zone et qui continuent à survoler la zone pour confirmer ou infirmer cette information-là, en plus du déploiement du mécanisme conjoint de vérification qui a été initié aussi depuis lundi en vue d'avoir une situation beaucoup plus claire concernant la véracité de ces informations-là. Donc jusque-là, au risque de vous décevoir, nous n'avons encore aucune information palpable, fiable, recueillie sur le terrain.
Gilles Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, comment vous, en tant que journaliste, vous avez réagi lorsque vous avez appris le week-end dernier que le gouverneur du Nord Kivu a dénoncé cette tentative du M23 de pouvoir attaquer la RDC à partir de l'Ouganda?
Oui, bon, ça m'a étonné parce que ces combattants ex-M23 étaient censés en tout cas être bien gardés en Ouganda, désarmés. Et même pratiquement démobilisé si l'Ouganda était de bonne foi. Mais je me rends compte que ces gens-là étaient cantonnés quelque part et qu'en croit le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, donc ils ont pu se procurer des armes pour pouvoir en tout cas revenir sur le Congo et l'attaquer. Ça démontre que nos voisins, surtout de l'Est, font en tout cas de l'insécurité au Congo leur source de sécurité. Il faut que le Congo soit en insécurité pour qu'il soit en sécurité. Il faut qu'au Congo, on continue à s'entretuer, que les gens puissent mourir comme des mouches pour qu'ils puissent préserver en tout cas leur sécurité. Et pourtant, nous sommes pratiquement même peuple, partageant de mêmes frontières pendant des années. Mais je me rends compte que ceux qui sont nos voisins à l'est du pays ne vivent pas en tout cas en bonne intelligence avec nous. Et de toute façon, il n'y a même pas lieu en tout cas de se plaindre. Le Congo est censé avoir une armée, et l'armée est censée avoir comme mission de protéger et de défendre ses frontières face à toute force qui viendrait l'attaquer. Et je constate, je note avec beaucoup de tristesse que c'est ça l'héritage de la fameuse libération du 17 mai de l'AFDEL. Le Congo avant le 17 mai, à l'avant l'AFDEL, n'était pas une terre où les gens pouvaient mourir comme des mouches. Aujourd'hui, ce sont des millions qui meurent depuis que l'AFDEL a foulé les sols congolais avec ses alliés ougandais, rwandais et autres qui continuent en tout cas à manipuler certains groupes armés pour semer mort et désolation. Voilà là où nous amène pratiquement la primauté de l'intérêt privé égoïste qui est inféodé à l'intérêt étranger. Et voilà où ça nous amène maintenant.
Merci. Joaquim Diana, éditeur du journal La Colombe, est-ce que vous étiez aussi étonné lorsque vous avez appris cette nouvelle, comme le dit Jérôme Mokolo, qui s'est étonné parce que les éléments du M23 sont censés, n'est-ce pas, être surveillés en Ouganda, et lorsqu'il apprend cette nouvelle, ça l'a étonné. Est-ce que vous étiez aussi surpris comme Jérôme Mokolo?
Moi, je n'étais pas étonné, tout comme je ne suis pas étonné du développement que fait Mokolo. Il me dit aujourd'hui, il nous apprend aujourd'hui que avant c'était la paix à l'Est. Mais moi, en lisant les mémoires de Léopold II, qui était la puissance à l'époque où le Rwanda et le Burundi étaient sous les Allemands, le roi des Belges se plaint du petit voisin qui continue, ne cesse de lui donner de petits coups de sabot. Déjà à cette époque-là, à l'époque de Mobutu, je retiens l'opération Kimia, qui n'a pas réussi, et puis Mobutu a envoyé l'opération Mbata. C'est tout toujours à l'Est. Il ne faut pas raconter des histoires parce que vous voulez entrer dans la polémique. Laissez-moi quelle ampleur. Laissez-moi. Ampleur, ça n'est pas aussi des intérêts. L'ampleur, ça n'est pas aussi des intérêts. Lorsque vous êtes journaliste, vous devez dire de l'histoire, ne pas raconter des histoires inutiles. Je n'étais pas aussi étonné en quoi? Je n'étais pas aussi étonné lorsque j'ai appris que ces gens-là, ils adorent le moment où ils sont arrivés au Rwanda. Il y a longtemps qu'on devrait les rapatrier. L'Ouganda ne le rapatrie pas, le garde. Et ils sont même, il y en a même qui ont gardé leurs armes dans le camp. Je suis aussi étonné par les réactions qui sont dans. D'abord, il y a eu le gouverneur qui a tuté, qui a annoncé, on a dit on ne connaît pas. Même le ministère ougandais, le porte-parole, je crois, du gouvernement ougandais, a démenti.
Mais il a rejeté les allégations.
Il a rejeté les allégations.
Mais aujourd'hui, c'est une façon pour le gouvernement congolais, n'est-ce pas, de détourner l'attention de la crise en RDC.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, la présidence ougandaise reconnaît que ces gens-là ont fui et on les a rattrapés. Ce sont là où l'information que vous donnez avec des armes dans des patates douces, c'est l'information de la présidence ougandaise. Et ces gens ont été arrêtés en Ouganda. Et on les a amenés dans un autre camp, selon la présidence ougandaise. Et je suis aussi étonné à ce moment que la MONUSCO, qui appuie la RDC dans tout sens. Et la première dit, un peu comme Ouganda aussi, non, nous ne sommes pas. Mais il devrait s'informer.
Elle auprès... dit qu'elle est confirmée.
Mais tout à fait, elle devrait avoir cette information auprès de qui? C'est auprès de la RDC. C'est auprès de l'armée congolaise dont la MONUSCO est en appui. La MONUSCO n'est pas une armée dans l'armée congolaise, à l'écart, n'est pas un État dans un État. La MONUSCO est venue soutenir la République démocratique du Congo. Lorsque les responsables de la République démocratique du Congo disent qu'il y a des armées qui sont entrées là-bas, n'a qu'à s'informer auprès de la RDC, etc. La RDC, on lui aurait montré ses armes, ses patates, tout ça. Mais lorsque la MONUSCO lance comme ça, ça dit que c'est comme si elle était dans une démarche autant que les Ougandais de discréditer.
Vous auriez souhaité que la MONUSCO confirme des informations. Mais qu'est-ce que... sur des faits dont ils ne détiennent pas des éléments... des preuves.
Est-ce que son rôle se consiste seulement à confirmer ou à ne pas confirmer? Je dis ici la logique normale de sa mission, en appui au FRDC. Les FRDC, les dirigeants congolais ont dit, il y a ça, 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 ça. Mais avant même que la MONUSCO dise que nous n'avons aucune information fiable, se sont-ils adressés auprès
de ces autorités-là.
Merci.
Vous avez déclaré ça, donnez-nous les preuves. Ils se font dire non.
Merci.
Et ils déclarent parce qu'eux-mêmes n'ont pas vu. Ils doivent voir avec. Mais si ils étaient entrés, la MONUSCO allait dire quoi? D'ailleurs, c'est à l'armée congolaise de protéger. Nous, nous venons en appui.
Merci.
Mais ceux qui protègent, je vous donne l'information, vous ne pouvez pas les prendre.
Baba Isaac Kalonji, vous êtes journaliste, analyste indépendant, évoluant en Bougimba et Kwassaï oriental. Certains experts expliquent cette menace que représente encore aujourd'hui le M23 par le fait que le gouvernement congolais avait accepté, n'est-ce pas, de signer une déclaration avec ces mouvements rebelles, alors que ces derniers avaient déjà capitulé en novembre 2013.
Le M23, pour nos auditeurs, les auditeurs de la radio Fréquence la Paix, doivent savoir que le M23, c'est le mouvement du 23 mars. Le mouvement des rebelles qui était en concertation avec le gouvernement congolais. Comment ont-ils été boutés dehors? Vous le savez mieux que quiconque. Même ceux qui sont avec vous, mes confrères qui sont avec vous, le savent. Maintenant, quand on repère quelques éléments de ce mouvement qui ont été boutés dehors. Mais Roger Lumbala est au pays, il est rentré de l'exil, il était porte-parole du M23. C'est pourquoi la radio Okapi ne peut pas lui approcher, c'est-à-dire lui tendre le micro pour qu'il dise qu'est-ce que c'est que M23, comment ils ont été boutés dehors, comment Lumbala s'était fait à l'époque porte-parole. Il en connaît mieux que ceux qui parlent là-bas, et même moi qui parle en Bougimaï, je ne connais pas le M23 mieux que Lumbala Roger, qui est de retour au pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Congo, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ne le comparez jamais au Burundi ou bien au Rwanda, encore moins à l'Ouganda. Le pays qui attire les mouches, parce que là où il y a le miel, il y a les mouches. Donc nous devons être victimes au centre de l'Afrique, nous devons être victimes des mauvais traitements de voisins qui veulent tout simplement développer leur convoitise vers les ressources naturelles dont dispose le Congo, et dont les potentialités atteignent un niveau supérieur par rapport à toute l'Afrique. Comprenez ça, mon confrère, dans ce sens. C'est pourquoi nous sommes victimes. Mais nous devons nous organiser pour faire face à ces attaques, à ces incursions, parce que ceux-là qui viennent, ne viennent pas pour nous faire la guerre, ils viennent tout simplement pour voler les minéraux et rester dans le pays. L'or, le coltan, le diamant, la cassiterite, l'étain, le cuivre, nous n'en avons pas ailleurs comme chez nous.
Merci Baba Isaac Kalonji, merci JRM Kolo, ça sera sur votre conclusion. Que faut-il aujourd'hui, n'est-ce pas, pour décourager toute aventure de cette nature aujourd'hui, au moment où il y a cette dynamique, n'est-ce pas, des règlements pacifiques des crises?
Moi je crois que nous devons améliorer notre gouvernance, en tout cas sur tout le plan. Il faut avoir des institutions stables, des animateurs qui sont vraiment souciés de la marche du pays, et qui feront en sorte qu'on ait une armée digne de ses noms et qu'on crée des conditions pour que la MONUSCO, par exemple, quitte le pays, que nous-mêmes nous puissions prendre en charge notre défense et que les Congolais regardent dans la même direction au lieu que nous puissions nous regarder en chaîne de défense comme des ennemis et les enfants du même pays.
Merci.
Aujourd'hui, ce qui tue le Congo, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a des intérêts privés égoïstes congolais qui sont inféodés aux intérêts étrangers. Vous vous rappelez, par exemple, toutes les rébellions que nous avons connues ici, c'est des Congolais qui se sont alliés avec des étrangers pour agresser leur propre pays.
Merci, J.R. Diana Gikoupa, que faut-il pour décourager ce genre d'initiative aujourd'hui? Ça sera votre conclusion.
Je reviens sur ma proposition faite, je crois, depuis 98, celle de nous séparer du Rwanda et de l'Ouganda par un mur. Je pense que cette initiative est normale.
Et nous, c'est réaliste.
Les frontières sont tellement...
C'est réaliste.
Mais c'est réaliste. Les frontières sont petites.
Est-ce qu'on n'est pas condamné à vivre avec des voisins?
Le mur aura comme avantage de bien choquer la communauté internationale et on va avoir des couloirs où les gens vont entrer au Rwanda et au Congo ou au Ouganda contrôlés. Avec la frontière poreuse comme ça, les gens, vous le faites entrer parce que ce sont des femmes et ils vous entrent dans des pommes de terre avec des armes. On ne doit pas continuer à accepter ça.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à William Lungamba qui était à la technique. Merci à Alain Irung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci à la semaine prochaine pour un autre numéro de Tribune de la Presse. Bon week-end sur Radio Okapi.